Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro du magazine Le confort dans l'habitat. Vous le savez, chaque mois on décrypte ensemble l'actualité, on vous donne les clés pour mieux consommer, plus économique et puis aussi réduire son empreinte carbone. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux nouveaux chiffres sur la sécurité électrique dans le logement. Un sujet très important qu'on avait déjà couvert dans cette émission. On va s'intéresser au tout dernier baromètre ONSE, le baromètre de l'Observatoire National de la Sécurité Électrique. Et avec nous, pour en discuter, deux experts. On accueille Renaud Tambéry. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Directeur général de Consuel. Et Florence Delette. Bonjour Florence.
Bonjour.
Directrice générale de Promotelec. On commence par commencement, c'est-à-dire l'ONSE, Observatoire National de la Sécurité Électrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui compose l'ONSE et à quoi sert-il?
Eh bien, cet observatoire, il a été créé en 1995 et il est composé de fabricants OP, de représentants de la filière électrique, bien évidemment, d'associations de consommateurs, d'assureurs, du monde de l'incendie aussi, et des pouvoirs publics. Il faut insister qu'il est neutre. Et qu'il fait ses études statistiques sur l'installation électrique dans les logements en toute impartialité.
D'accord. Du coup, on a cet observatoire et ce baromètre très intéressant. On l'a vu puisque l'ONSE produit effectivement des chiffres, des stats et on retrouve toutes les infos sur le site onse.fr. Renaud, un petit mot justement sur ces chiffres. On va rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet. C'est important comme ça d'avoir un observatoire national qui nous donne qui a une vision peut-être 360, un petit peu qui donne des chiffres, des tendances.
C'est essentiel, notamment quand on parle de statistiques, il faut avoir des statistiques pertinentes parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on a envie. Donc l'objectif de l'ONSE, comme le disait Florence, c'est de se retrouver autour de la table avec un certain nombre d'experts qui vont travailler sur notamment tout ce qui est lié aux risques électriques, à la prévention des risques électriques, notamment en termes d'incendie, d'électrisation et malheureusement quelquefois d'électrocution.
Les deux premiers ne sont pas létaux, on va dire, le troisième c'est plus compliqué.
Voilà, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Donc on parle de statistiques, d'installation électrique dans l'habitat, que ce soit dans l'individuel, dans le collectif. On parle d'installation électrique de consommation et de production, avec notamment tout ce qui est lié au photovoltaïque et depuis maintenant quelques temps sur tout ce qui est en lien avec la mobilité électrique, notamment les installations de recharge de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, l'ONSE travaille sur tout ce qui est en lien, notamment Florence le disait aussi avec les pompiers, sur tout ce qui est RCCI, c'est-à-dire recherche des circonstances et des causes des incendies en lien avec l'installation électrique. Et pour terminer cette introduction, je voudrais aussi dire que ces chiffres de l'ONSE, ils sont très importants et ils sont énormément repris aujourd'hui par la presse et ils font, entre guillemets, force de communication. Et c'est important aussi pour les experts qui sont sur la table de continuer à travailler et à donner de façon neutre et objective ces chiffres-là.
C'est très clair. Florence.
Oui, je voulais ajouter une chose, c'est que tout à l'heure j'indiquais qu'il avait été créé en 1995 et d'ailleurs créé
1995.
Par nous deux. C'est-à-dire Consuel et Promotelec, et que même si des progrès ont été faits, vous disiez tout à l'heure, Fabrice, qu'on a déjà abordé la sécurité électrique, et on voit, suite aux résultats qui sont dans ce baromètre NSE 2021, on voit que certes, des changements ont été opérés, on a moins d'anomalies, on a moins d'accidents ou d'incidents. Pour autant, si on est là autour de cette table pour en parler aujourd'hui, c'est qu'il reste beaucoup à faire, parce qu'on a quand même sur tous ces logements beaucoup d'anomalies, et au moins, je veux dire, je ne sais plus si c'est 85% des logements, présentent au moins une anomalie. Et donc ça, c'est important de dire que même s'il y a des conseils, ce qui est le cas, enfin, ce qui est le sens même de Promotelec, de prodiguer des conseils, des informations, d'expliquer aux gens, malgré ça, on a toujours une situation qui mérite d'être considérée et aussi communiquée pour que les accidents soient limités.
Alors justement, on se penche sur ces chiffres, les installations électriques dans les logements. 37 millions de logements recensés au 1er janvier, 20 millions logements individuels, 16 millions logements collectifs, un petit peu plus. Bref, on a 30 millions de logements qui datent d'avant 2006. Et effectivement, vous le disiez Florence, première stat assez incroyable, 85%, hein, c'est entre 8 et 9 logements sur 10 qui ont des installations électriques de plus de 15 ans et qui comportent au moins une anomalie électrique. Un premier constat hein, sur ce chiffre, c'est assez alarmant, Renaud.
Alors, en plus d'être interpellant, on va dire, je ne vais pas parler forcément d'alarmant, mais interpellant, là on parle d'installations existantes. Donc on parle d'installations qui ont un défaut de sécurité électrique. Donc on n'est pas du tout en train de parler des installations qui ne sont pas aux normes actuelles, parce que les normes actuelles, c'est pour les installations neuves. Là, on parle d'installations qui sont existantes, donc avec un niveau de sécurité qui est essentiellement focusé sur 6 points de sécurité. Mmh. Et donc, quand on dit qu'à 85% des installations de plus de 15 ans qui comportent au moins un défaut, on parle de défaut effectivement majeur de sécurité. Il n'y a pas de défaut mineur de sécurité ou de défaut majeur, il n'y a que des défauts majeurs de sécurité. Et on va détailler effectivement juste après les différents défauts. Mais c'est vrai que c'est interpellant. Donc, nous, ce qu'on fait avec Promotelec, c'est à la fois de sensibiliser les occupants, sensibiliser, alors qu'ils soient locataires, propriétaires, sensibiliser les bailleurs, sensibiliser la filière, pour pouvoir travailler à la fois sur la correction des anomalies, mais également aussi sur la prévention en amont, pour que, justement, avant que notamment les locataires rentrent dans les logements, qu'on puisse faire un état des lieux pour permettre aux locataires de rentrer après travaux dans une installation en sécurité.
Oui, parce qu'il y a des solutions, on va le voir. Alors, pour ceux qui se posent la question, ils disent, bah forcément, s'il y en a 8 ou 9 sur 10, je suis peut-être dans le lot. Qu'est-ce qu'on voit comme problème, comme anomalie électrique rencontrée? Les principales, 66%, donc la plus importante, c'est la prise de terre défectueuse.
Oui.
La prise de terre, c'est on parle toujours de mise à la terre, on parle toujours de... Est-ce qu'il y a la terre ou pas dans mon logement? C'est un souci. Et cette prise de terre défectueuse, ça génère également aussi une réflexion sur l'absence des différentiels 30 milli qui sont en tête, notamment dans les tableaux. Et ce qui font que, ben, grâce à ces 30 milli, on peut avoir à un moment donné une sécurisation immédiate de son installation électrique en cas de court-circuit notamment. Donc ça, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu de sécurité qui n'est pas compliqué à solutionner, notamment par rapport aux 30 milli, c'est de le rajouter tout simplement. Et donc j'invite effectivement chacun à bien identifier cette présence de 30 milliampères et du réseau de terre dans les logements.
Mmh. Ensuite, 48% appareils vétustes ou inadaptés de l'installation électrique. Là aussi, ça surprend pas. Bon, il y en a de plus en plus, évidemment. On a de plus en plus aussi, il faut le dire, d'appareils. Hein. On est de plus en plus équipés les uns et les autres. Et souvent, on a des logements qui n'avaient peut-être pas été prévus pour... Les smartphones, les prises, des décodeurs, de la console de jeu, etc. Du coup, on est obligé de rajouter des prises, des surprises, des tensions. D'ailleurs, on le voit, hein, 44% risque de contact direct avec des éléments sous tension, 36% anomalie sur le dispositif de protection quand on est sur intensité. Je continue, mauvaise liaison équipotentielle, un petit peu plus technique, 24%. Et zone de sécurité des salles d'eau non respectée à 21%. Voici pour les 6 points analyse des diagnostics électriques obligatoires. Voilà, c'est la source. Bon, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a aussi envie de donner à nos auditeurs des éléments pratiques. Comment on fait pour... pallier à ces défauts qui sont pas de mineurs, hein, vous le rappeliez, Renaud.
Donc, plusieurs possibilités. La première qui me semble la plus évidente, c'est surtout de faire appel à un installateur professionnel pour pouvoir remettre en sécurité le logement. Ça, c'est effectivement quelque chose de très, très simple à mettre en place. Ce qu'il faut surtout insister, j'insiste bien là-dessus, c'est sur la prévention. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler également en amont, c'est-à-dire lors de l'arrivée dans le logement, de pouvoir, que ce soit notamment lors des ventes où là, il y a un diagnostic électrique obligatoire, donc qui sert à informer le futur propriétaire de l'état de sécurité de son installation pour qu'il puisse justement remettre en sécurité avant d'y habiter. Et le diagnostic électrique obligatoire dans le cadre des locations, des relocations, où le bailleur doit remettre, je le rappelle, un logement en sécurité, parce qu'on parle de logement décent, donc à minima en sécurité électrique, pour son locataire. Donc là, j'invite effectivement les propriétaires, dans ce cas-là, à faire appel à des installateurs qui vont venir auditer, contrôler, vérifier le niveau de sécurité, remettre en sécurité 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 points que vous avez cités, Fabrice, et remettre à l'issue de cette visite une attestation de conformité pour mise en sécurité consuelle qui permettra de garantir aux locataires que son lieu aujourd'hui de vie est en sécurité sur le, en minima sur l'installation électrique.
Donc du coup, c'est plutôt au propriétaire, c'est ça, de faire la démarche. Depuis 2018, dès qu'on remet un logement à la location, hein, c'est vrai que peut-être certains, en toute bonne foi, je dirais, ou en toute méconnaissance, ne savent pas que c'est désormais obligatoire, ou choisit de l'ignorer gentiment. Attention, on peut signaler également que l'utilisateur lui-même est ensuite responsable de son installation électrique. Hein, et on voit aussi, malheureusement, des choses qu'on ne devrait plus voir, des gens qui tripaturent un peu les fusibles, qui mettent du papier alu, qui vont faire des remplacements avec des prises inadaptées. Ça aussi, c'est monnaie courante, Florence.
Oui, oui. Mais il est important de souligner aussi une chose, c'est que quand Renault mentionne ce diagnostic électrique obligatoire à la vente et à la location, il y a aussi une responsabilité qui s'engage. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le logement après, dont la source est électrique, enfin liée aux installations électriques de l'appartement ou du logement qui a été loué, le propriétaire engage sa responsabilité. Donc c'est pas anodin, c'est pas je fais un diagnostic parce que c'est obligatoire, mais je regarde quand même derrière parce que s'il y a un problème, c'est quand même moi qui suis en cause. Donc ça oui, après sur l'usage, il y a une chose, il y a l'installation électrique, on parlait tout à l'heure de 48% d'appareils vétustes, je pense que c'est de toute façon toute installation quelle qu'elle soit vieillit. Donc quand on dit des logements de plus de 15 ans, peut-être on est en train de parler aussi de logements qui existent depuis 50 ans, 60 ans et qui n'ont pas été rénovés, dont la sécurité électrique est passée, pardonnez-moi l'expression, à l'as, ou pas suffisamment mis au goût du jour. Et donc, on a cette vétusté des appareils électriques. Après, il y a l'usage aussi, en effet, vous évoquiez tout à l'heure certains appareils. Maintenant, on voit, on est tous connectés, on est tous hyper connectés. Et donc, bien sûr, on peut avoir des conséquences en termes de surintensité quand on branche sur une prise grâce à une multiprise, toute
multiprise
une série d'appareils,
sur une multiprise.
Voilà aussi ça aussi, et donc qui fait que les fils derrière n'ont pas la puissance nécessaire pour pouvoir absorber toute cette puissance appelée. Donc oui, il y a l'usage qu'on en fait. Après, il y a du bon sens aussi, mais il y a aussi en effet de la prévention. D'où aussi bien Consuel, aussi bien Promotelec, on est dans cette sphère là où on fait de la prévention, on fait de la formation aussi, sur des gestes simples, sans parler de choses très techniques, mais il y a quand même des choses assez basiques à éviter dans un logement en matière de sécurité électrique.
Florence, vous venez d'évoquer la rénovation. C'est vrai qu'on est en plein chantier de rénovation. On sait aussi qu'il y a beaucoup de pièces qui sont en pleine transformation. Je pense notamment, Renaud, aux baignoires qui sont souvent changées pour le confort, mais aussi pour les seniors, pour plus de facilité, par des douches à l'italienne. Là aussi, il faut faire attention parce que ça peut modifier l'environnement et l'environnement électrique.
Exactement. En fait, la problématique des douches à l'italienne, c'est qu'elles sont très, très sympas, très, très accessibles, comme vous le disiez, mais on a aussi un impact en fait sur les volumes de sécurité dans les salles de bain, donc par rapport notamment à tout ce qui est appareillage électrique, prise, interrupteur, etc. Donc il faut toujours imaginer que même si on ne touche pas à l'installation électrique, le fait de, par exemple, de modifier une baignoire et la remplacer par une douche à l'italienne peut avoir un impact sur la sécurité électrique dans ce logement. Donc toujours faire attention à ça. Donc j'invite tous les professionnels qui travaillent dans l'environnement d'installation électrique de toujours vérifier que la réglementation est bien respecté, notamment quand on change une baignoire vers une douche à l'italienne.
Et voilà, c'est pas forcément évident, mais autant y penser. On s'intéresse également aux installations électriques dans les parties communes. Donc on le disait, étude qui a porté sur plus de 16 millions de logements collectifs. Et là, on apprend, chiffre également alarmant, 9 sur 10, 90% des installations électriques des parties communes comportent au moins une anomalie électrique. On passe rapidement, je vais vous les citer. Risque de contact direct avec des éléments sous tension, 74%. Risque de contact indirect avec des éléments sous tension suite à un défaut d'isolement, 26% des calibres des disjoncteurs ou fusibles inappropriés, circuit à protéger. Et ensuite, 10%, donc là c'est un petit peu moins, problème de localisation de l'AGCP, le disjoncteur de branchement. Oui, il n'y a pas de diagnostic électrique obligatoire pour les parties communes, Renaud.
Non, pas aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on lit ce chiffre de façon assez brute, on se dit, bon voilà, 9 parties communes sur 10 aujourd'hui sont en insécurité électrique.
Qui doit faire quoi dans ce cas-là ?
Alors évidemment que la copropriété doit se saisir de cette réflexion-là. Alors je vais mettre de côté tout ce qui est en lien avec les bailleurs sociaux qui, eux, ont une démarche, bon, en tant que monopropriétaires, ils ont une démarche de rénovation de logements, et quand ils rénovent leur bâtiment, ils rénovent aussi leur partie commune, et donc ils s'occupent de ça. Là, je vais plutôt mettre l'accent sur les installations qui sont dans des copropriétés privées, où là, effectivement, il est du ressort de la copropriété et du syndic de se poser la question, à minima, de l'état de sécurité, parce que la sécurité électrique d'un logement ne s'arrête pas à la porte d'entrée du logement. Elle comprend aussi la sécurité dans les parties communes, notamment dans des espaces où les enfants peuvent circuler. Oui. Donc là, on est sur de la sécurité pure. Et puis, on a aussi la performance. Quand vous disiez tout à l'heure, Fabrice, qu'on avait des problématiques, notamment de terre dans les parties communes, on peut aussi avoir une conséquence peut-être un peu hors sécurité électrique, mais qui est de dire que si on n'a pas de terre dans les parties communes et si on est relié au réseau des parties communes pour faire marcher des bornes de recharge de véhicules électriques, les bornes de recharge ne marcheront pas. Oui. Donc on a aussi cette problématique-là.
Donc là, c'est très concret. En plus, il y en a beaucoup qui les utilisent de plus en plus. Ça ne fonctionnera pas. Attention à bien vérifier ce point, effectivement. Florence, on avance, on passe aux électrisations, électrocutions et dommages électriques. On l'avait évoqué tout à l'heure. Ben voilà, on a des chiffres là aussi, grâce à l'ONSE, ce baromètre. On a quand même 3 000 blessures par électrisation par an et même 30 à 40 décès. Alors heureusement, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est que ça a été diminué par 2 en 15 ans.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a, heureusement, ces statistiques montrent qu'il y a une diminution. Pour autant, on est toujours dans des niveaux élevés. Et derrière, il y a bien sûr l'accident qu'une personne peut affronter. Et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire on fait appel aux pompiers. Enfin, on peut avoir aussi un problème dans un logement, mais du coup avec une répercussion sur les autres logements si on est dans du collectif. On fait appel aux pompiers. Il y a le problème d'assurance derrière. Enfin, on a derrière des milliards d'euros qui sont engagés.
Mais on va le voir dans un instant.
En termes non pas cette fois de prévention, mais de correction.
Ouais, 340 000 déclarations de dommages électriques par an auprès des assurances. Là aussi, c'est des budgets énormes. Alors, les principales causes, surtension, la foudre, les variations de tension sur le réseau électrique. Ça, on le sait, évidemment, il va y avoir de la casse quand on a des gros orages. Je pense qu'il y en aura malheureusement de plus en plus. Nous préditons. Les surintensités, courant important. Voilà, on le disait, quand il y a trop d'équipements électriques branchés via des rallonges, via des prises, des surprises, etc. Et puis, défaillance d'un composant de l'installation électrique ou d'un branchement électrique avec une magnifique illustration d'un micro-ondes en train de flamber. En général, c'est plutôt le grille-pain qui est visé et qui fait péter les plombs. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. En plus, le grille-pain, effectivement, a une résistance un peu différente des autres appareillages. Donc, on a cité tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure des prises, des multiprises. Donc, j'insiste bien aussi au niveau de la cuisine. Il est vraiment important de pouvoir avoir le nombre minimum de prises dans les cuisines pour éviter justement de surcharger les prises existantes, qui plus est avec des appareils, notamment les grille-pains, qui peuvent là à la fois avoir une défaillance interne, mais aussi une défaillance au niveau de la multiprise, parce que je le rappelle aussi, la multiprise à une puissance maximale qui est à supporter.
Voilà.
Et c'est vrai que la cuisine, juste avant de venir ce matin, je regardais combien d'appareils j'avais connectés dans la cuisine. J'en ai 12. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi ?
Alors, il y a une prise chacun ou du coup vous êtes obligé de...
Il y a une prise pour la... Oui, en l'occurrence, il y a une prise chacun. Donc j'ai de la chance, ça veut dire que les propriétaires a bien fait son job. Mais c'est impressionnant. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait 12 prises réellement dans chaque logement des Français. Et je n'ai que le... Je veux dire que j'en ai que le minimum, entre le micro-ondes, le grille-pain, bien sûr, il y a les smartphones, il y a la cafetière, etc. J'en ai d'autres, alors peut-être un petit peu plus, non pas high-tech, mais que tout le monde n'utilise pas forcément, mais c'est quand même impressionnant.
Ouais, et puis on peut brancher peut-être l'iPad, effectivement, dans la cuisine, pour suivre les news ou suivre une recette de cuisine. Donc ça fait autant. Petite anecdote personnelle, je vous l'ai confiée durant la préparation. Moi, j'ai eu un électricien qui est venu, qui a rajouté 4 ou 5 prises. Et bien, c'est vrai que ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus confortable et pas forcément forcément très cher. On termine justement avec tout ce qui est coût, en tout cas voilà, les incendies d'habitation aussi, hein, vous le disiez, malheureusement 240 000 déclarations de sinistres incendies d'habitation auprès des assurances, 15 000 pour les parties communes, donc là aussi hein, c'est un coût énorme aussi pour la société, avec 80 000 interventions des sapeurs-pompiers, et voilà, donc il est urgent, pourrait-on dire, eh bien de réduire tout ça, d'autant qu'entre 20 et 35% des incendies d'habitation seraient dus de sources électriques. Hein.
Oui. Oui, oui, on voit bien, enfin, à la lecture de ces chiffres, on voit bien que ça pèse lourd, et puis on voit aussi le budget associé et les moyens et les ressources
nécessaires. On serait uniquement sur les conséquences économiques liées aux incendies d'habitation, 4 milliards d'euros par an. C'est énorme, hein, là aussi, et on a l'impression que si, là aussi, on est plus dans la prévention, ouais, dans l'installation ou dans le contrôle. Hein. Alors, on l'a vu, Renaud, vous nous disiez, le diagnostic, c'est bien, mais si, effectivement, il y a le palliatif, c'est-à-dire la personne qui vient et qui répare, c'est encore mieux.
Ah bah, de toute façon, les travaux aujourd'hui, c'est le gage de sécurité. Donc, je ne peux que demander aux propriétaires, aux occupants, de faire intervenir des installateurs professionnels.
Dernière question, petite annexe, mais j'y pense. Est-ce qu'on peut avoir, pour les ménages peut-être les plus fragiles, des aides aussi sur une mise en conformité, réhabilitation ?
Alors après, ça peut s'intégrer dans une logique beaucoup plus globale de réflexion par rapport à la rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, mais cette transition énergétique, elle ne peut pas se faire sans sécurité électrique. Donc on a certainement besoin d'avoir globalement une problématique qui peut être réglée à la fois sur l'isolation et sur la sécurité électrique.
Voilà, mise en chantier, mise en sécurité. À qui faire appel aussi, c'est important.
Installateur professionnel. Il y a aujourd'hui des outils qui sont à la disposition de la filière, notamment pour checker, pour aider à la décision, notamment pour discuter avec le propriétaire. Je rappelle qu'on là, on est sur de la mise en sécurité, donc on est clairement sur les justes travaux. Il faut clairement insister là-dessus. Les justes travaux, c'est pas si cher que ça. Ça permet avec un, on parlait des disjoncteurs différentiels 30 mm, donc de mettre un disjoncteur 30 mm, de mettre 3 ou 4 prises de plus pour éviter donc d'avoir des surtensions au niveau des multiprises, de vérifier notamment au niveau des appliques dans les salles de bain si elles ont bien la bonne classe pour éviter d'avoir une problématique au niveau de tout ce qui est projection d'eau. Donc c'est pas grand-chose à faire, mais évidemment, comme on se dit toujours, il vaut mieux le faire avant l'accident qu'après.
Ouais, exactement. Donc ce PASS, P-A-S-S, pour vérifier la mise en sécurité du logement, ça c'est un outil à destination des professionnels.
Exactement.
Bon, on en sait un petit peu plus justement sur ces nouveaux points de sécurité grâce à l'ONSE. Je vous laisse le mot de la fin, Florence. Donc on l'a dit, hein, prévention, sécurité, ne pas hésiter à faire contrôler son logement. Et puis rappeler à tous les propriétaires que voilà, s'ils ont des biens qu'ils mettent en location, eh bien, c'est désormais obligatoire, ils doivent faire cette vérification.
Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, on est vraiment, on voit qu'on n'est pas à zéro. Peut-être que le risque zéro n'existe pas, mais on peut mieux faire et qu'on a tous les moyens pour le faire. Et comme disait tout à l'heure Renaud, on n'est pas dans des budgets colossaux pour pouvoir changer une prise, pour mettre à la terre, pour avoir un tableau électrique aux normes, etc. Donc voilà, bien sûr, un euro est toujours un euro, mais pour autant, la sécurité des personnes est en jeu, et aussi bien ceux des occupants du logement concerné, mais aussi éventuellement des autres locataires si on est dans du collectif. Donc on aura de cesse à Promotelec, à Consuel aussi, d'insister sur ces obligations, déjà dans le diagnostic, et obligation de faire les travaux. Alors il n'y a pas d'obligation de faire les travaux, mais quand même, il en va de la responsabilité de chacun. Et donc on ne cessera d'insister en termes de prévention, en termes de formation, en termes de conseils aussi, à Promotelec et à Consuel aussi.
Ouais, et puis ça passe bien évidemment par de la pédagogie, ce qu'on essaye de faire sur cette antenne. On espère, dans le prochain baromètre de l'Observatoire national de la sécurité électrique, qu'on verra ces chiffres en baisse. Merci Renaud Tambéry, je rappelle que vous êtes directeur général de Consuel.
Merci
Florence, directrice générale de Promotelec. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'Habitat.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.